Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Alexandra.
Salut.
Tu vas bien ?
Ça va, merci et toi ?
Bah écoute, jour férié aujourd'hui, du coup j'en profite pour faire une interview en journée, en visu, comme je te disais, j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, c'était souvent à distance, et je suis hyper content parce que bah aujourd'hui je me suis éclaté vraiment à me plonger dans ton univers et dans le karaté, donc et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à préparer toute l'interview, donc je suis presque impatient, tu vois.
Ah bah écoute, super, et j'ai hâte de t'en dire plus alors.
Eh ben trop bien. En plus, je voulais quand même te remercier, puis remercier aussi Aline qui nous a mis en relation parce que elle l'a fait de manière hyper pro, et je voulais te remercier parce que je sais que le programme est hyper chargé en ce moment, qu'en plus toi déjà on va découvrir un peu ton rythme de vie, mais t'es souvent dans les avions, tu bouges beaucoup. On est à 2 semaines du TQO, le tournoi qualificatif pour le karaté kata. Que demain t'es en stage, je crois, ou tu pars en stage.
C'est ça, je suis en stage demain et lundi on part pour les championnats d'Europe.
Ouais, donc rythme hyper intense. Donc merci de prendre le temps et de prendre une grosse heure pour qu'on puisse discuter un peu de tous ces sujets.
Bah avec plaisir.
Et parler de tout et de rien. Comme je te le disais, la tradition c'est de commencer par l'enfance. Et j'ai une première question que j'aime bien poser. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. C'est pas forcément ton vrai premier souvenir. Ça peut être un souvenir qui t'a marqué, un souvenir qui t'a inspiré à la télé, avec tes parents aussi, parce que j'ai cru comprendre qu'ils avaient un rôle important dans ta carrière et dans ta construction. Du coup, la question, c'est ouais, quel est ton premier souvenir de sport ?
Mon premier souvenir de sport, je dirais que c'est vraiment au club avec mes parents. Alors, j'ai pas une date précise, mais quand vraiment, parce que j'ai commencé à l'âge de 4 ans, mais je me vois passer mes ceintures au club, et c'est vrai que c'est un de mes souvenirs aussi qui était marquant pour moi dans ma carrière.
Ok. Donc ouais, t'as commencé hyper jeune, c'est ça le karaté?
Ben oui, à 4 ans du coup. Ben en même temps, j'ai presque envie de te dire, c'est la suite logique puisque mes parents ont un club. Ouais. Donc tous les deux s'occupent du club. Maman de la section des babies et papa essentiellement des adultes. Et ouais, aussi la section compétition tous les deux. Et donc j'ai envie de te dire, je suis presque née avec un kimono quoi. Et ouais, ma petite sœur également est sur mes traces.
Ouais, c'est fou cette histoire de famille. Et du coup, le club, il est à Ajaccio, c'est ça? C'est là où t'es née?
Oui, tout à fait, il est à Ajaccio, ouais. Donc je suis née à Ajaccio, donc voilà.
Trop cool, mais je crois que t'es la première athlète vraiment corse, natale, enfin native de Corse que je rencontre.
Bah donc, trop fière, écoute.
Mais d'ailleurs, je me demande à quoi ça ressemble une famille de karatéka et corse, parce que je me dis qu'il doit y avoir du tempérament, mais qu'en même temps, il doit y avoir la culture un peu...
C'est explosif. C'est assez explosif, ouais. Du coup, il y a le tempérament bien trempé et le côté aussi karaté, ça marque sa petite touche aussi où on se fight un petit peu, mais mais bon, ça va.
Ok. Et tu sais comment tes parents, eux, sont tombés dans le karaté eux-mêmes? Parce qu'ils doivent avoir une histoire qui doit être passionnante, parce que si je pense qu'ils ont dû se rencontrer grâce au karaté, ils montent un club ensemble, derrière ils entraînent leurs deux filles, c'est singulier comme histoire, tu vois.
Alors ouais, alors papa en fait avait commencé par faire du judo, mais ouais, il a toujours été attiré par le karaté, et un jour donc il a commencé effectivement le karaté, et puis pris de passion. Et par contre non, il a pas rencontré maman sur les tatamis. Okay. Ils sont rencontrés dans le quartier où ils habitaient tous les deux, et en fait maman a toujours été une fan de Bruce Lee, et quand elle a rencontré papa qui était déjà pratiquant, en fait ça a été la suite logique, et elle a essayé comme ça, donc et du coup elle a accroché quoi.
Ok, d'accord. Donc ouais, elle est tombée amoureuse de ton père avant de tomber amoureuse du karaté. Mais trop chouette. Bon, en tout cas, très belle histoire. Ça met des petits papillons dans le ventre. Est-ce qu'ils te l'ont tu l'as senti un peu comme s'ils te l'imposaient ce sport, tu vois, ou enfin j'imagine qu'ils ont peut-être dû te laisser le choix, ou que pour toi c'était une évidence. Comment est-ce que tu l'as vécu, on va dire, en tant que petite fille, la découverte du karaté?
Alors, pas du tout, justement, j'ai pas du tout été forcée, la preuve, parce que mes parents m'ont initié aussi à d'autres sports, pour pas que je leur reproche d'avoir fait que du karaté. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a eu que ce sport pour lequel je suis restée passionnée pendant, aujourd'hui encore, quoi. Ouais. Après, j'ai fait longtemps de la danse, pendant 4 ans, et j'avais fait même un petit peu d'athlétisme, mais sinon, enfin voilà, c'est vraiment le karaté, forcément, ils étaient contents de voir que aussi leur passion me plaisait, mais en tout cas, ils ne m'ont jamais forcé, et pareil pour ma sœur.
Ouais, ouais. Puis j'imagine qu'ils t'ont transmis la passion, quoi. Enfin, t'es pour, je pense pour un couple de parents qui pratiquent le même sport, qui créent un club, tu vois, c'est quelque chose que tu vis au quotidien.
Forcément, ils transmettent une passion beaucoup plus importante du coup, parce que en plus les deux dedans, donc vraiment. Puis ce côté famille, en plus, je trouve que c'est vraiment une force aujourd'hui, et d'avoir ses parents dans la même passion et qui comprennent ce que je fais. Enfin, c'est tout juste génial, quoi.
Ouais. Et le reste de votre famille est karaté aussi, où ils arrivent à comprendre, je sais pas, vos petits délires tu vois, de karatéka, ou tu enfin moi ça me, tu sais, je m'imagine mes cousins, je sais pas, ils étaient à fond dans un sport et tout, j'aurais ça, enfin je serais hyper curieux, tu vois, et ça serait presque, enfin je m'y mettrais aussi en fait pour être un peu comme eux, tu vois.
Alors les autres membres non de ma famille n'ont jamais testé, mais c'est vrai qu'après enfin ils s'intéressent vraiment. Par contre ouais. Moi j'ai du côté de ma mère mon cousin et ma cousine, enfin c'est vrai qu'ils sont à fond derrière moi, enfin bon pas que bien sûr, mais mes grands-parents aussi, donc c'est vrai qu'un peu tout le monde vit un petit peu aussi sur notre rythme et derrière nous et derrière pour nous soutenir, quoi.
Ouais, ok, bon bah c'est trop chouette. Et du coup je me posais un petit peu la question, je connais mal l'univers du karaté et même peut-être l'univers des clubs, mais aujourd'hui c'est possible, tu vois, de créer un club et d'en vivre, je sais pas, vraiment d'en vivre et de fonder quelque chose, enfin une structure qui est solide et qui peut vivre dans le temps.
Ça reste compliqué de vivre du karaté, même si on crée son club. Enfin voilà, moi papa a créé son club avec maman, voilà, mais c'est une association loi 1901 à but non lucratif, donc du coup ouais. Non, enfin ça reste compliqué. Je connais d'anciennes championnes du monde de karaté qui ne font que ça, mais ouais. Mais c'est, je pense que c'est beaucoup de boulot aussi pour du coup je pense un minimum. Ouais. Voilà, un minimum de retour, de salaire, je pense que ça reste quand même compliqué.
Ouais, ouais. Bah, en faisant un petit peu mes recherches, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de stages avec peut-être un peu des maîtres, je sais pas si c'est le bon mot,
c'est
mais
ça.
Qui parcourent un peu à travers le monde et qui vont justement transmettre un petit peu leur passion. Et d'un œil extérieur, je me disais, ok, en fait, on peut en vivre de cette manière-là, tu vois, et c'est un peu unique parce qu'il y a plein d'autres sports où tu peux pas faire ça, tu vois, je sais pas, tu peux pas être champion de hand et faire des petits groupes comme ça et parcourir un peu, enfin, en tout cas, ça existe pas à ma connaissance, par exemple.
Effectivement, et après, voilà, comme tu disais, il y a certains maîtres qui parcourent le monde, font des stages. Ouais. Et de par leur renommée, alors essentiellement des maîtres par exemple japonais, ouais. Mais il arrive que d'autres puissent en vivre quand même, mais enfin, ça reste quand même rare et compliqué quand même.
Ouais, c'est pas du tout la majorité, quoi.
Ouais, exactement.
Ok. Et moi, je voulais vraiment t'entendre parler toi de ton sport. Notamment, je pense que les auditeurs connaissent pas bien ce que c'est que le kata. Et du coup, j'étais curieux de. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs styles, mm-hmm. que c'était un sport de jugement. Alors, on a un peu parlé de kumite dans le podcast que j'ai eu la chance d'interviewer ton homonyme, Alexandra Areca,
ouais.
qui était super chouette. Enfin, j'ai passé un super moment. D'ailleurs, si tu veux l'écouter, c'était assez sympa. Mais j'ai l'impression que c'est deux sports qui n'ont rien à voir, enfin qui sont très différents, donc peut-être dans la pratique. Mais du coup, ouais, je serais curieux de toi, t'entends décrire ton sport avec tes mots. Si j'étais un petit enfant et que tu devais m'expliquer le karaté et ce que c'était qu'une compétition, qu'est-ce que tu me dirais ?
Alors déjà, le kata, je te dirais que c'est un enchaînement de techniques codifiées dans le vide contre des adversaires imaginaires. Okay. Beaucoup de personnes vont assimiler ça justement à une chorégraphie. J'aime pas forcément ce mot parce que tout de suite on va penser à de la danse. Alors bien qu'il y ait une part quand même esthétique dans mon sport, mais faut pas oublier que c'est un combat justement, même ouais. si c'est contre des adversaires imaginaires. Et il y a cette notion vraiment de puissance qu'on doit porter à chaque coup, de rapidité, de fluidité. Il y a aussi une notion d'équilibre. Ouais. Donc la part quand même du combat est très présente.
Ok, ouais. Et du coup, en compétition, c'est un sport de jugement. Donc, vous êtes noté avec des arbitres.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'ils viennent noter?
Alors, il y a 7 arbitres et en fait, donc, il y a la note technique qui compte à 70% de la note et la note physique à 30% de la note.
Okay.
Donc voilà, c'est des critères bien précis. Par exemple, dans la note technique, donc, bien sûr, c'est notre style. Comme tu as parlé, il y a différents styles. Donc, le style, mais le physique, par exemple, ça peut être la puissance, le côté aussi très athlétique. Donc, ça reste quand même aussi assez subjectif parce qu'on est un sport à notation, mais... Donc voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on était au drapeau, par contre. Il y avait 5 arbitres autour du tatami, avec un drapeau bleu et un drapeau rouge. Et ils devaient choisir, donc, entre deux athlètes, je dirais. Et maintenant, donc, pour les JO, justement, on a changé ce système de notation et on est passé à 7 arbitres qui sont face à nous, tous sur une grande table.
Ok. Donc, vous passez les uns après les autres. et les 7 arbitres vont vous noter.
Tout à fait.
C'est une note sur 10, j'imagine.
Non, en tout, enfin,
il y a plein de points, c'est plein de critères.
Oui, il y a une note sur 10 pardon technique et la note sur 10 physique, et donc après ça fait une moyenne où généralement tu vas à peu près, tu fais des 25, des 26, 26.2, enfin voilà, ça dépend.
Ok. Et dans le physique, qu'est-ce qu'il note? Il note quoi la vitesse, il note la qualité esthétique, qu'est-ce que...
Ouais, c'est surtout le côté très athlétique, donc tout ce qui va être puissant et la rapidité en fait des enchaînements, des exécutions de l'athlète.
Ok.
Voilà.
Et est-ce que tu gagnes plus de points si tu fais, j'imagine que oui, si tu fais un coup de pied ou une technique plus difficile qu'une autre techniquement à faire.
Alors, comme nos katas, comme je te disais, c'est des techniques codifiées, donc tout est bien, enfin, tu dois respecter en fait le kata à la lettre, mais effectivement, il y a une notion quand même de stratégie quand tu fais un kata simple et un kata, je dirais, plus compliqué. Okay. Et effectivement, si tu fais un kata plus complexe avec un saut, des rotations où il y a des prises de risque, je dirais, plus importantes, effectivement, la note physique augmente.
Ok. Ok, d'accord. Et pour bien comprendre et pour que les auditeurs comprennent bien aussi, vous choisissez le kata sur lequel vous voulez passer durant la compétition.
C'est ça, c'est exactement ça. Il y a une liste en fait, tout simplement.
De combien?
Beaucoup, parce que je me demande, enfin, avec tous les, enfin, de mon style, je dirais, il y en a une quarantaine, mais tout le style confondu, enfin, franchement, je sais même pas, parce qu'il y en a énormément. Et en fait, parmi cette liste, donc, tu pioches ceux que tu as envie de travailler. Et aujourd'hui, moi, j'en perfectionne à peu près 5-6.
Okay.
Pour avoir le choix justement de, ben, en fonction de soi, de la stratégie, en fonction aussi de tes sensations du jour, parce que des fois tu te sens bien sur tel kata et des fois moins bien. Donc voilà comment tu les choisis. Tu choisis celui que tu veux aussi en fonction de tes capacités, parce qu'il y en a qui vont mieux t'aller que d'autres.
Okay.
Et tu les perfectionnes pour les compètes.
Ok, ça marche. Donc toi, dans ton style, il y en a une quarantaine. Et il y a à peu près combien de styles à peu près? J'ai cru comprendre qu'il y en avait 3 ou 4, non?
Les majeurs, il y a, parce qu'il y en a quand même là aussi, il y a beaucoup de dérivés, mais il y a le Shotokan, le Shitoryu et le Gojoryu. Voilà.
Et toi, tu fais?
Moi, je fais du Shitoryu et c'est un style qui est très représenté au niveau international.
Ok.
Voire quasiment, j'ai envie de dire, c'est ça le monopole qu'a.
D'accord.
Sur le plan international.
Ok, d'accord. Ok, donc vous êtes sur les compétitions, vous avez tous, on va dire, une quarantaine de choix et puis vous choisissez ceux sur lesquels vous voulez compéter, enfin.
C'est ça. On choisit, oui, exactement. On choisit en fonction de la liste. Ouais. Alors, pour le coup, il y a certains styles qui sont peut-être un peu moins avantagés que d'autres. Par exemple, le style Shotokan a une liste de kata un peu moins large.
Okay.
Et avec des kata peut-être un peu moins variés. Alors que pour le coup, moi, j'ai, dans mon style, il y a une richesse, de kata qui fait que tu peux piocher vraiment, ce que tu veux et.
Okay.
Et il y a vrai le choix est très large.
Ok. Et je connais pas bien les sports de jugement parce que j'en ai jamais fait moi. Mais j'avais eu mais souvent un petit peu en discussion avec les athlètes, tu vois. Et je pense à Laura Auger qui fait de la natation synchronisée. Je pense à Benjamin Auffray qui faisait du plongeon à 10 mètres. Il y a une grosse part subjective quand même et qui est parfois un peu dur à gérer, tu vois. Est-ce que alors dans la natation synchronisée, c'est assez flagrant parce qu'en plus c'est des critères esthétiques assez bêtes, tu vois, de beauté. Enfin bête, c'est mon jugement en tout cas,
oui.
Mais ça ne regarde que moi, mais en tout cas c'est des critères de beauté qui sont dommages et qui sont un peu indépendants de la technique. Il y a aussi des avantages un peu dans le karaté, tu vois, je sais pas, certains physiques, certaines silhouettes, certains styles, vous faites pousser des cris aussi, pendant que vous faites, est-ce qu'il y a des petites choses, tu vois, des patterns un peu qui reviennent et qui donnent un peu l'avantage à certaines personnes?
Les arbitres, comme en fait le karaté, je dirais, est né au Japon, dès qu'ils voient un écusson japonais, généralement, voilà, tu sais que quand t'as un japonais dans ta poule, ça va être compliqué.
Okay.
Voilà, nous, c'est essentiellement en fonction, je dirais, des nations. C'est plus ça. Parce qu'une part esthétique, non, pour le coup, pas que je sache. Et je pense pas, parce qu'à une époque, c'était un peu la mode quand même aux filles aussi de se maquiller. Et je pense pas que ça joue vraiment dans les critères. Maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, il y a une part très subjective. Et souvent, nous, on se compare en fait au patinage artistique. Et clairement, le ranking, enfin le classement mondial, influence aussi le choix des arbitres.
Ok, voilà. D'accord, ouais. Ouais, donc ils voient... Il y a une espèce de fascination peut-être pour le Japon et aussi un respect du classement.
C'est ça, le respect, on dira, de la hiérarchie et moi je trouve ça complètement injuste parce que des fois, ben la numéro une mondiale, peut-être que c'est pas son jour et toi t'arrives, tu la rencontres et pour qu'il te donne la victoire, accroche-toi quoi. Donc ça reste compliqué et en fait je pense que pour qu'on te donne la victoire, il faut qu'on te voit régulièrement sur des places à médailles, soit des places de 3, soit des finales, régulièrement sur des podiums jusqu'au jour où je dirais enfin les arbitres certainement te donneront cette chance de basculer peut-être toi en tant que numéro une quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comment ça se passe une compétition du coup? T'as parlé de poule et après vous êtes en duel, c'est ça, les unes contre les autres?
Alors ouais, c'est ça. On est sous forme de poule. On est 8 par poule et donc on on a notre ordre déjà attitré quand le tirage au sort tombe. Et à l'issue de ça, donc le premier tour se passe. Ils en retiennent que 4.
Ouais.
À l'issue de ça, donc se forme une autre poule de 8 et ils en retiennent encore que 4. Et arrivé les demi-finales où là, par contre, c'est le classement pour les places à médailles. Donc la première se retrouve en finale, la deuxième va croiser avec la troisième de l'autre poule et de l'autre tableau, et inversement, la troisième rencontre la deuxième de l'autre poule.
Okay.
Donc, ouais, du coup, c'est vrai qu'il n'y a plus de confrontation directe. C'est un peu dommage parce que je trouvais que justement, sur confrontation directe, c'était peut-être plus facile de battre une tête de série.
Ouais, ok.
Parce
que vous êtes à côté, il y a un duel et du coup tu peux surperformer sur un combat entre guillemets, c'est ça?
Mais en fait, à l'époque, c'était vraiment tu par exemple, si t'es rouge, tu rentres en premier parce qu'on a des ceintures de couleur. Ouais. Quand t'es rouge, donc ça veut dire que tu passes en 1 et bleu juste derrière. Donc et en fait, du coup, comme c'est une confrontation directe, c'est forcément, il y a quand même encore une part qui est subjective, mais ça laisse moins de place au doute. Et si vraiment la fille elle est meilleure, c'est elle qui passe. Alors que là, le problème c'est comme on est 8 à passer, si malheureusement tu passes dans les par exemple si je passe en numéro 1, on voit comme le patinage justement, les arbitres ils osent pas monter les notes tout de suite, donc ils savent pas trop et donc au fur et à mesure, même s'il y a une fille peut-être moins bonne qui va tirer en 7, peut-être qu'en fonction, tu vois, elle va finir devant toi parce que toi, t'es juste passé en numéro un, quoi.
Ouais, je connais très bien ça. Je connais très bien ça. Ouais. Je suis amené professionnellement des fois à devoir mettre des notes sur des discours et sur des présentations. Le premier peut être avantagé comme fortement désavantagé. Et pareil pour le dernier, en fait. Le dernier est plus souvent avantagé parce que justement il peut s'adapter un peu aux autres et il y a le niveau global qui joue quoi, donc et forcément tu vois si t'as plein de gens qui sont moyens et que le dernier est très bon,
c'est ça.
Ça va le faire se resplendir, on va dire, la note. Et puis s'il est, tout le monde est moyen et puis que lui il est moyen moins, en fait comme tout le monde était moyen, tu vas pas te rendre compte qu'il était moins, quand même nettement moins bon que la moyenne, tu vois. Donc c'est dur à juger aussi.
Ouais, c'est pas évident, mais pour le coup, enfin moi j'ai jamais trouvé qu'en passant en numéro 1, ça avantage pour le coup. Hein. Ouais. À moins d'être, comme je disais, tête de série ou être une japonaise, mais on avait fait des pronostics justement pour montrer que quand on passait en fin de poule ou à partir de 4-5, forcément, t'avais plus de chances de passer au second tour.
Ouais, en plus, c'est facile de faire des stats, je pense.
C'est ce qu'ils avaient fait parce qu'en fait, ça avait été, enfin,
il y a un biais de jugement qui est fort, quoi.
Ouais, puis au tout début du lancement de cette nouvelle notation, si tu veux, donc les têtes de série, ce que je trouve normal au premier tour, étaient avantagées et passaient en 8. Sauf qu'en fait, plus t'avançais dans les tours et les têtes de série restaient constamment ou 8 ou 4. et donc en fait c'est pas normal parce que des fois tu pouvais avoir une note par exemple meilleure qu'elle, mais comme elle était tête de série, tu restais malgré tout moins bien classée, dans la poule qu'elle. Et au bout d'un an, parce que ça s'est pas fait forcément du jour au lendemain, au bout d'un an, c'est grâce à nos coachs équipe de France qui ont fait des pronostics et qui ont montré justement à la WKF que en passant vers la fin, t'étais avantagée. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait au second tour, maintenant à partir du second et troisième tour, ils font un tirage au sort. Donc ça veut dire que même si tu étais tête de série, tu peux passer en numéro 1 au prochain tour.
Ok, d'accord.
Donc ça redistribue, je dirais, quand même un petit peu les cartes.
Ok, mais c'est hyper intéressant que vous avez eu conscience de ce biais-là et que vous essayez de justement de rebattre un petit peu les cartes pour pas avoir justement tu sais une décision qui en fait fausse toute la compétition mais c'est intéressant. Bon, en tout cas je croise les doigts du coup pour que tu aies des bons tirages sur les 3-4 mois qui arrivent.
Bah, malheureusement je t'avoue que souvent je suis en début de poule mais ça doit être, je sais pas si c'est mon nom qui fait ça, mais c'est rare que, mais bon, généralement ça se passe quand même bien, mais après il y a pas le choix, mais je croise aussi les doigts pour que je sois en fin de poule aussi.
OK. Et ça peut t'arriver de changer de stratégie si tu vas passer en début de poule ou en fin de poule. Par exemple, tu vois, je sais pas, début de poule, tu te dis OK, bon bah là tu vas être obligé de montrer quelque chose d'exceptionnel, tu vois, et en fin de poule, tu sais que tes adversaires vont peut-être se gourer ou faire des erreurs et du coup toi tu vas plutôt avoir tendance à assurer.
Alors, je dirais que c'est pas tant mon ordre de passage qui influe mon choix de kata, c'est plus les filles que je vais rencontrer.
Ok.
Ouais, c'est plus ça la stratégie et pas tant le tirage.
Ok. Et les filles, tu sais la veille, c'est ça, non? Ou
alors pour le premier tour, on le sait la veille. Et après le jour J, forcément, on suit la compète et on sait qui passe au second tour.
Ok. Ok. Bon, c'est hyper intéressant. Ouais. Donc il y a une petite part de strat et tu fais du visionnage vidéo sur tes adversaires du coup pour voir. En fonction de leur style, ce que toi tu vas présenter.
Alors ça arrive, sauf que pas plus que ça, parce que d'un côté on a chacune notre style bien à nous, bien particulier. Et moi voilà, enfin je me forme par contre, je fais beaucoup de stages même au Japon pour avoir mon style, mais enfin voilà, le but c'est pas non plus de les copier, parce qu'il y en a et forcément on s'en inspire un petit peu, mais c'est pas forcément le but. Donc on analyse plus, je dirais. Les katas, en fait, et elles aussi, en fait, leur stratégie. Voilà.
Okay.
Donc, c'est plus ça qu'on va analyser, mais pas plus que ça non plus, parce que, voilà, je préfère me concentrer sur moi.
Ok. Bon, bah, je peux comprendre. C'est clair. Mais en plus, j'imagine que vous connaissez un peu toutes et que vous connaissez... voilà, vous savez un petit peu à l'avance quel style ou quel kata vont proposer peut-être les autres, et du coup c'est aussi difficile de surprendre, j'imagine, vraiment mutuellement.
Ben c'est vrai qu'au fur et à mesure, au bout d'un moment, comme tu dis, on se connaît et on commence à connaître un petit peu aussi les stratégies de chacune. On sait que un tel va faire tel kata en finale ou justement en demi-finale pour se classer. Donc du coup. Enfin, moi, j'essaye toujours quand même de varier, que ça soit sur le plan national ou international. Beaucoup, par exemple, au niveau national, en championnat de France, j'aime pas arriver toujours avec le même kata de finale.
Okay.
Je me dis, pour les arbitres, au bout d'un moment, c'est rébarbatif. Je suis la numéro une française, ok. J'ai fait plusieurs finales, ok. Mais justement, il faut surprendre. Ouais. Et j'essaye aussi de le faire à l'international. Alors, c'est moins évident parce que je suis pas non plus numéro une mondiale. Non, mais j'essaye.
Ok, ok. Mais écoute, j'espère que ça sera une stratégie payante. Mais en tout cas, ça me fait rebondir sur un sujet que je voulais vraiment aborder avec toi, qui est un peu le sujet du pouvoir de la répétition. Tu vois, moi, je crois beaucoup au fait que le succès ne vient pas, tu vois, d'un gros coup de chance ou d'un gros coup de travail et tout, mais c'est que je pense que tout le monde en est conscient, c'est le fait de répéter l'entraînement et toi ça va encore plus loin, c'est que tu répètes exactement toujours ce que, enfin ouais, comme tu l'as dit, c'est 5-6 katas que tu vas présenter en compétition. Et je te pose un peu la question pour moi, parce que tu vois, j'ai un peu la même problématique ou un peu le même ressenti, tu vois, avec ce podcast. Je suis à plus de 100 interviews maintenant. Et moi, ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour te renouveler, tu vois, continuer à progresser sans te lasser? J'imagine qu'il y a des moments où, tu vois, c'est peut-être un peu plus dur où il faut se repenser, mais est-ce que t'as mis en place des choses justement pour réexplorer, entretenir cette passion, découvrir des nouvelles choses, tu vois, comment est-ce que tu, enfin, je sais pas si t'as conscientisé un peu cette répétition qui peut être un piège aussi, qui est une force qui fait que tu deviens une championne, mais qui peut aussi, tu vois, tomber un peu dans la lassitude.
Exactement, parce que c'est vrai qu'on répète inlassablement chaque geste, chaque kata, chaque mouvement.
Attends, excuse-moi, je te coupe, mais juste par curiosité quand même, combien de fois par jour ou par an tu peux répéter un kata? Tu t'as compté à peu près le...
Oh, j'avoue que j'ai jamais compté, mais du coup tu vas me donner une idée pour le faire. enfin généralement, enfin ça dépend, tu vois, il y a des séances où par exemple quand je suis avec mon père, c'est un entraînement, un kata. Et par exemple quand je vais être avec mon coach équipe de France, lui c'est plus deux kata en un cours. Tu vois, ça dépend. Donc
Et tu vas le faire combien de fois en un cours ?
Enfin généralement on le fait souvent en demi-découpe, on le coupe en deux, on fait première partie deux fois, deuxième partie deux fois également, kata entier et on passe. En fait ça dépend aussi quand on est à l'approche aussi des échéances. Moi du reste la dernière fois mon coach il m'a fait un sale coup en deux jours, j'ai fait 14 kata. C'est beaucoup quand même et on se rend pas compte mais c'est vrai qu'en fait c'est usant. Même si ça dure des fois que 3 minutes, c'est très très physique et non, j'avoue que j'ai jamais compté mais
En tout cas ça t'arrive de le faire plus de 10 fois par jour et depuis que t'as 4 ans quoi.
C'est ça.
OK. Donc ouais, comment est-ce que tu fais pour entretenir un peu cette passion, cette flamme et cette envie de progresser ?
Bah du coup, je pense qu'il faut ne pas hésiter à changer aussi sa méthode de travail et faire d'autres choses. Et ça c'est vrai que mon staff c'est essentiellement eux qui m'encadrent, donc moi je les suis et ça varie tout le temps. C'est vrai que sur ça j'ai pas à me plaindre et je suis très contente. Après bien sûr qu'il arrive qu'on arrive dans une routine, mais dès que la routine s'installe, voilà, avec une petite discussion, je leur dis bon là ça me saoule, j'ai l'impression de faire toujours la même chose, est-ce qu'on peut varier les entraînements, est-ce que, enfin ouais. Voilà, ils sont ouverts aussi à toute discussion et comme je disais aussi tout à l'heure, je pars de, enfin pas de temps en temps, mais j'essaye de me former au maximum au Japon. Et donc du coup c'est vrai que c'est complètement, enfin c'est une autre approche et du coup tu rentres je dirais à la maison avec un bagage technique et un éventail beaucoup plus important et t'as juste après tes entraînements et forcément ça donne toujours un petit peu de renouveau je dirais.
Ok et ça fait plusieurs fois que qu'on mentionne un peu le Japon. Je sous-estimais un petit peu l'influence, enfin tu vois on sait tous que tu vois le karaté a été créé au Japon, qui a une culture qui est très liée, mais pour toi c'est obligé aujourd'hui de s'inspirer de justement de ces maîtres japonais, de faire des stages au Japon, de nipponiser un peu sa culture à soi, tu vois, c'est quelque chose de fondamental.
Complètement, et encore plus dans la discipline kata, c'est vraiment le côté très 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 traditionnel aussi je dirais et vraiment, enfin on sent vraiment qu'ils sont à l'origine de tout et des fois j'ai pas envie de dire que tu travailles d'une manière sans savoir ce que tu fais, mais presque des fois, et alors que quand tu vas chez eux en limite tu comprends tout le sens. Et ils sont vraiment aussi avec ces énergies et au début je comprenais pas tout ça, tu vois, enfin tu captes pas et c'est vrai qu'à force de travailler avec eux tu comprends que l'énergie elle vient de la terre, tu comprends que nous généralement on a un style si tu veux assez européen et qui fait qu'on est très puissant, très en force et souvent dans le haut du corps. Et en fait, tu comprends que quand tu vas là-bas, limite presque que en fait t'as rien compris et que tout se passe dans le bas du corps, quoi, tu vois. Et tu changes ta manière de travailler et c'est vrai que ton karaté évolue de fou, quoi.
Ok. Et moi j'ai un souvenir, je suis parti au Japon et c'était difficile de communiquer, tu vois. Déjà il y a une barrière de la langue en dehors de Tokyo qui est assez forte, mais et aussi parce que les Japonais montrent très peu d'émotions sur leur visage, ou en tout cas, enfin. De notre œil d'Européen, on voit très peu d'émotions. Tu peux nous raconter, je sais pas, un stage là-bas, je sais pas si t'as des anecdotes, tu vois, par rapport à ça, ou comment est-ce que tu fais pour communiquer, comment cette culture, elle te touche personnellement?
Bon, moi, j'aime beaucoup déjà cette culture. J'ai pu visiter et plusieurs fois, donc essentiellement Tokyo, et c'est vrai que par contre sur le tatami, bon, heureusement que j'ai envie de dire. Dans nos cours, depuis qu'on est jeune, on nous parle japonais, en fait, on nous parle. Il y a des consignes qui sont en japonais, des terminologies aussi qui sont en japonais. Donc, du coup, je dirais sur le tatami, presque la barrière de la langue, comme si elle existait pas, quoi, tu vois. Donc, après, bien sûr, de temps en temps, ils te disent deux, trois mots en anglais. Et pour la petite anecdote, c'est vrai qu'il y avait, c'était quand il y a un an de ça, en février l'année dernière, j'étais partie donc 18 jours au Japon avec mon père pour me former, à Tottori exactement. Et il y avait un japonais, donc un vieux maître japonais, et pour le coup, il parlait pas un mot anglais, sauf qu'il m'a traumatisée parce que le seul truc qu'il savait dire, c'était non. Et en plus, pour le coup, comme tu dis, enfin, généralement, il laisse pas transparaître certaines émotions, mais lui, j'avais l'impression qu'il me criait dessus à chaque fois. Il disait non. Et je dis, oh purée. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est une autre méthode de travail, tu casses, je dirais, un peu ton moule pour en reformer un autre. Et déjà que tu as pas forcément de bonnes sensations, et quand tu entends le maître te dire non non non, enfin tu te dis oh malheur. Mais ouais voilà, c'était la dernière anecdote que j'ai eue avec les Japonais.
C'est marrant parce qu'en plus les Japonais, ou même les Asiatiques de manière générale, en tout cas il y a plusieurs langues je crois asiatiques dans lesquelles le non n'existe pas. Et tu sais, ils ont toujours une manière détournée de te dire non ou peut-être, ouais. On verra. Donc c'est assez marrant.
Bah lui, je peux te dire qu'il avait pas de mal à le dire et au contraire à me le répéter je sais pas combien de fois. Donc okay. C'était pas évident.
Ok. Et du coup, ouais, t'as parlé de ces stages-là un peu pour se renouveler, pour continuer à progresser. Et au quotidien, t'as des petites, je sais pas, des petites techniques, des petites... des phrases que tu te répètes pour justement entretenir un peu cette passion, casser la routine. Comment est-ce que tu casses la routine, tiens? Je serais curieux. Comment est-ce que tu fais pour avoir un entraînement qui est toujours le même mais qui soit différent quand même, tu vois?
Bah c'est bête parce qu'au final je la casse pas tout le temps parce que c'est vrai que c'est comme au final je pense que ça vient vraiment de notre discipline, comme tout est codifié. Bah j'ai mon échauffement qui est presque aussi, j'ai envie de te dire, codifié, qui est toujours le même avant que je passe au kata. Donc je fais des mouvements qu'on appelle des kions dans le vide. Donc c'est ce qui te prépare au kata. Donc c'est okay. Juste un enchaînement où tu fais des allers-retours avec quelles que soient les techniques que tu veux. Et en fait, c'est vrai que même avec mon coach équipe de France, tu vois, on attaque toujours les entraînements de la même manière. Donc au final, ça change pas tant que ça. Après, de temps en temps, ma sœur casse la routine et vient s'entraîner avec moi parce que je suis souvent seule. Et ça, pour le coup, c'est plaisant
okay.
Et ça me fait sortir, voilà, aussi de ce côté un peu trop solo et c'est cool.
Ok. Et des fois, ça t'arrive que des choses que t'apprends dans le karaté débordent un peu sur en dehors du tatami, tu vois. Je te donne un exemple et tu vas comprendre. Là, tu vois, on est en train de parler. Et moi j'ai eu des gros soucis de voix quand j'étais plus jeune. Et du coup quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit j'ai envie de travailler sur ma voix. C'est un truc. Donc tu vois plus sans interview, j'aime bien du coup faire ce travail d'intervieweur, de bien parler. Et j'ai pris des coachings un peu vocaux pour travailler et du coup, j'ai travaillé sur ma posture, tu vois, durant les interviews, durant tout le temps. Je me tiens droit, j'essaie de grandir un peu la cage thoracique, le menton haut, pas trop vers le bas, tu vois. Et ça déteint, tu vois, dans ma vie perso. Tu vois, par exemple, quand je peux être en réunion avec des collègues, bon bah si je parle, je fais ah en fait, j'ai pas mes deux pieds dans le sol, je me tiens pas droit. Ah, on se replace et tout. Et tu vois, et j'ai l'impression que c'est effectivement, tu vois, cette répétition la répétition du détail et du petit geste, en fait, qui déteint un peu sur toute partie de ma vie, sur plein de petits aspects. Et je me demandais si tu pouvais avoir un peu la même chose, tu vois, je sais pas, dans le karaté, que ça soit dans la posture, dans les gestes, peut-être avec les mains, dans le rapport à l'autre, tu vois, au jugement. Enfin, j'en sais rien. Je digresse, hein. Peut-être que ouais. Je suis complètement dans le fantasme, mais tu peux me le dire.
Alors, en termes de posture, je sais pas, parce que justement, j'essaye de travailler aussi ma posture parce que ça fait partie aussi de la prestation. Mais par rapport aux mains, est-ce que c'est parce que je suis corse que je parle avec les mains et du coup est-ce que c'est ma discipline aussi qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements avec les mains? Je ne sais pas, mais moi je dirais que c'est plus en termes de caractère.
Ouais.
Comme je suis, je dirais, dans le karaté, je suis dans la vie de tous les jours comme ça. C'est quelqu'un de... Je suis très rigoureuse, l'heure c'est l'heure. Pardon. Et donc du coup, c'est vrai que moi je dirais c'est plus mon tempérament.
Ouais, ok. Et donc il y a la rigueur, il y a peut-être d'autres traits de personnalité que on va dire qui sont nécessaires pour être une championne en karaté et qui peuvent aussi peut-être tu vois qui font partie de ta personnalité.
Moi je dirais je suis une battante et ouais. Ma mère, je sais qu'aussi c'est un mot qu'elle emploie souvent pour me qualifier. Enfin c'est vrai que c'est un comment dire, moi aujourd'hui je vise être la numéro une, mais en fait c'est pas que dans le karaté, c'est comme ça, je suis ouais. Hyper compétitrice et en fait je vais être la meilleure dans tous les domaines, quelle que soit la chose que je vais pouvoir entreprendre ou faire, il faut que je sois la numéro une quoi.
Ok, t'as un petit exemple de d'un truc extra sportif
Par exemple dans mon boulot, parce que donc je travaille à la CAPA qui est la communauté d'agglomération du pays ajaccien et c'est vrai que dans mon service, malgré le fait que on est une équipe où on s'entend très très bien, tout de suite en fait j'ai voulu me démarquer et montrer que Alors, je peux pas dire que j'étais la meilleure, mais que j'étais certainement la plus compétente ou que je pouvais accomplir le plus de tâches, qu'on pouvait me donner un maximum de missions. Et justement, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu que peut-être que j'allais être la relève ou en soutien d'une collègue qui est plus ancienne que moi et qui a des tâches aujourd'hui plus importantes, quoi.
Ok. Ben, ça fait une super passerelle avec un autre sujet. C'était un peu le conditionnement mental. Et tu vois, là, t'as dit justement, enfin, t'as parlé de ta personnalité qui veut être une battante et qui aime être la meilleure version de toi-même. Je pense, tu vois, si on peut le prendre un petit peu plus mm-hmm. large, et c'est un peu comme ça que je le traduis moi. Je suis très curieux et j'aime beaucoup poser la question aux athlètes. En fait, qu'est-ce qui se passe les 24 heures et la dernière heure avant une compétition, et comment toi tu fais pour te conditionner pour être à 100% à cet instant-là? Comme tu l'as dit, c'est très court, ça va durer 3 minutes. Tu dois être la meilleure version de toi-même à ce moment-là. En plus, j'encourage même tu vois les auditeurs là qui nous écoutent à aller regarder des vidéos de quelques catas de toi. Et j'ai l'impression que t'es une femme différente, presque. Alors, je sais pas si ça te surprend que je dise ça, mais...
Non, pas du tout.
Mais tu vois, là, je te vois, t'es souriante, tu parles avec les mains, t'es très avenante, on rigole, c'est jovial. Et quand tu es sur quand tu es sur le tatami, tu as le regard beaucoup plus ferme. On sent presque de l'agressivité, tu vois. On sent un état d'esprit guerrier. Comment est-ce que tu fais pour te mettre dans cet état d'esprit? Et qu'est-ce qui se passe, ouais, les 24 heures avant, je pense que ça se traduit aussi beaucoup dans les gestes que tu fais, donc je serais très curieux de savoir comment est-ce que tu te conditionnes
Alors,
une compète.
Déjà, moi, ce conditionnement démarre bien avant ces 24 heures. Okay. J'ai toujours aussi ce rituel, si tu veux, une semaine avant, pile poil, où je me mets dans ma bulle déjà et je simule une compétition. Alors, à une époque, je me réveillais quasiment aux mêmes heures que la compétition. Je prenais le petit déjeuner, l'arrivée au gymnase. Et alors aujourd'hui, peut-être pas le réveil 6h30 parce que c'est un peu tôt. Donc, j'aime de plus en plus dormir. Mais par contre, c'est vrai que je tiens toujours à une semaine de la compétition de faire mon heure de passage, mon tirage. Alors bien sûr, ça sera pas forcément le même que le jour J parce que, comme je disais, ça varie en fonction de la stratégie. Mais déjà, ça commence là. Okay. 24 heures avant.
Même... Bah attends, tu le penses ou tu simules jusque dans le geste, c'est-à-dire aller jusque dans le vestiaire?
Ah non, c'est-à-dire que je vais m'entraîner aux heures de passage. Ah, je suis avec mon père, on est quel jour? C'était pas plus tard qu'hier. Je suis allée m'entraîner dans le dojo avec mon père. J'ai commencé l'entraînement vers les 9h. Et comme je sais que mes championnats d'Europe démarrent à 10h, j'ai dit papa, premier kata, on démarre à 10h.
Okay.
Et comme il y a toujours de l'attente entre chaque tour... Ben je suis là, j'attends. Et justement, des fois, quand on est en salle de chauffe, tu t'entraînes, tu restes chaud, mais pas toujours. Des fois, tu t'assois. Et en fait, j'essaye de reproduire, je dirais wow. L'événement, quoi.
Wow.
Okay. Et c'est vrai que ça, je tiens ça de mon père. C'est mon père qui m'a un peu inculqué ça depuis toute jeune, parce que même à l'époque, quand je préparais des championnats du monde qui étaient à l'autre bout du monde, mon père m'avait, programmé justement petit à petit pour m'entraîner en fait au décalage horaire. Et plus ça allait, plus on reculait mon heure d'entraînement. Et ce qui est trop marrant, c'est que quand je préparais mes championnats du monde en Malaisie, je crois que je m'entraînais vers les 4h du matin. Ouais. Et je voyais à travers les vitres du dojo les jeunes qui rentraient de soirée et moi j'étais en train de m'entraîner, quoi. Enfin, le contraste était juste génial. Et donc c'est vrai que c'est un conditionnement qui est aujourd'hui important pour moi et ils le savent, mes coachs équipe de France, ils savent que... Ils disent, ouais, mais Alexandra, il faut qu'elle fasse son tirage avant compète. Ils le savent, c'est comme ça. Que je sois dans un bon jour ou pas, je le fais.
D'accord.
Et 24 heures avant, du coup, effectivement, avec mon coach, on fait toujours un dernier entraînement. Enfin, il sait que limite, si je peux faire encore deux entraînements la veille d'une compète, jusqu'au bout, quoi. Moi, je m'entraîne. Et au moins, si je dois en faire un, c'est même chose aux heures de la compète. Donc, vers 10 heures, là, par exemple, mardi, je vais m'entraîner et faire un débrouillage articulaire. Et puis aussi revoir quelques séquences de kata, des phases clés importantes et qui vont me mettre en confiance déjà.
Okay.
Voilà.
Et tu fais de la visualisation, c'est-à-dire uniquement psychologique et mentale, ouais. Et sans faire de gestes.
Oui, alors ça, ben mon père aussi nous faisait beaucoup de sophrologie quand on préparait les compétitions, et c'est quelque chose qui est devenu en fait presque, ben même chose, un rituel la veille quand je suis dans mon lit pour m'endormir. Alors souvent, ben forcément l'adrénaline elle est là, donc tu te dis oh là là, je vais pas réussir à m'endormir. Et puis finalement. Mon père, durant cette sophrologie, à chaque fois, il nous disait de nous imaginer l'arrivée au gymnase, l'arrivée dans la salle de chauffe, commencer l'échauffement, puis la compétition. Et puis, on s'imagine, en fait, la compétition de la meilleure façon possible, bien sûr. Et en fait, toujours en m'endormant, généralement, je me vois jusqu'au premier tour. Après, je m'endors. Mais en tout cas, ouais, je fais toujours, avant de m'endormir la veille des compètes, cette visualisation.
Ok. Et tu voudrais pas faire visualiser l'inverse, c'est-à-dire visualiser juste la finale, ou il y en a qui font ça, tu vois, ils vont uniquement visualiser le podium, tu vois, par exemple, ou la finale, ils vont se voir gagner, puis ils vont répéter ce truc.
Ouais, c'est vrai que je pourrais, mais par exemple, tu vois, pour les championnats d'Europe, la finale c'est complètement un autre jour. Ouais. Donc où il y a place à médaille, que ça soit pour la finale de 3, c'est un autre jour, et en fait je sais que mon premier tour va conditionner la compétition, et limite j'ai presque envie de dire c'est le kata le plus important. Je sais que si je suis bien dedans, le reste va en découdre, donc j'essaierai un jour, écoute. mais ça reste quand même je dirais ouais le tour le plus important presque.
OK. Et qu'est-ce que tu fais justement peut-être la dernière heure avant justement ce kata du premier tour qui est déterminant pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te mettre dans ta bulle, écouter de la musique? Est-ce que tu vas revisualiser ton kata? Tu pourrais te décrire peut-être rapidement. Alors on va pas dévoiler tous tes secrets à tous tes adversaires, mais il y a des choses, des gris-gris, des rituels que tu fais une heure avant de monter sur.
Alors des gris-gris, des rituels, ça oui. Déjà je viens toujours avec mon eau corse.
Ok.
Et aussi le drapeau. Ben la preuve là, tu verras qu'il y a mon eau corse, la Saint-Georges. Donc déjà ça fait partie du rituel, et par contre donc une heure avant, donc c'est là où j'attaque tranquillement la chauffe par des assouplissements, et petit à petit je monte en température, mais je suis dans ma bulle. Mais comment t'expliquer? À une époque justement, je pense que j'étais trop dans ma bulle, trop en mode énervé. Alors c'est normal, bien sûr, je vais faire la guerre sur le tatami, mais j'étais trop dedans justement. Et avec mon coach, on s'est rendu compte qu'avec ces années, parce que maintenant on se connaît très très bien, il s'est rendu compte qu'au contraire, il fallait que je l'aborde entre guillemets cool.
Ouais.
Et que je sois pas, en fait quand je suis trop dedans, en fait c'est là où je me mets trop de pression, et du coup en fait mon coach maintenant, c'est on est en compète, il peut me sortir une blague à 2 minutes avant de passer, quoi. Et du coup le fait de sourire, de en fait ça me fait un petit peu, je dirais, déstresser, relâcher cette pression. Mais par contre c'est vrai que j'ai cette faculté que dès l'instant où ça y est, c'est parce que même à l'entraînement ça m'arrive, c'est on rigole, tac, dans la seconde d'après c'est je mets mon masque et concentration maximale, quoi. Et en fait c'est la même chose du coup jusqu'à, je dirais, presque monter sur tatami, je suis avec mon coach, presque on se parle de la pluie et du beau temps, et tac, après je mets le masque et je deviens Xéla.
Xéla, c'est quoi, c'est ton nom?
Alors souvent comme on m'appelle Alex, c'est le verlan d'Alex, et du coup ça me faisait penser à Xéna, donc j'aime beaucoup Xéla. La guerrière.
OK, bah top, c'est marrant d'apprendre les petits surnoms, et c'est marrant parce que t'as claqué des doigts au moment où t'as parlé un peu du trigger, pour dire là-dedans, t'as un geste ou un truc qui te fait te plonger justement dans cette deuxième personnalité, et qui te fait prendre le masque de Xéla, du coup.
Un geste, je pense que...
Peut-être un mot ou...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alors, un mot, c'est aller. Okay. C'est peut-être bête, mais c'est aller. Et un geste, c'est, je pense que, parce que j'en fais deux, trois, c'est, je sais que je me tape, en fait, au niveau des jambes pour me stimuler. Et, en fait, le dernier geste que je fais, c'est je serre à fond la ceinture. Donc, je pense que c'est vraiment, en fait, ce serrage de ceinture qui, allez, hop, on y va.
Ok. C'est, bon, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Mais le pouvoir, tu vois, des petites habitudes et des petits ancrages pour se transformer, je trouve ça hyper, hyper cool. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé tout ça, parce que moi, j'aime bien être un peu dans la tête des athlètes et comprendre.
Avec plaisir.
Non, mais en plus, tu vois, alors les athlètes ne cessent pas de le répéter, et moi je cesse pas de le répéter, mais tu vois, c'est plein de petits trucs que tu peux reprendre aussi dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle, tu vois. Tu l'as dit, quand tu veux au travail, tu veux donner la meilleure version de toi-même, je sais pas, tu vas avoir un discours devant ton boss ou devant ton équipe ou devant un client, tu peux avoir pareil ces mêmes petits réflexes, ces petites tapes sur les cuisses et te dire ah, ok, là je sais pas, c'était un commercial, hop, j'appelle mon client et je vais être la meilleure version de moi-même pour cet appel ou cette rencontre et tu peux reprendre tous ces petites choses. Et dans le sport, on en est vachement conscient, tu vois, on en parle énormément, on le voit dans les biographies de champions, je le vois dans les interviews, tu le reconfirmes aujourd'hui à quel point c'est fort. Et on n'est pas éduqué à ça, tu vois, en tant qu'être humain, à le réutiliser pour tout, en fait, tu vois, pour les moments où en fait t'as juste besoin d'être là, d'être à 100%, quoi. Et il y a plein de moments où t'as besoin d'être là, tu vois, dans les moments durs comme dans les bons moments, comme dans les moments challengeants. Et moi, j'aime bien, à travers ce podcast, tu vas faire passer ce message qu'on peut tous créer des petits rituels, des petites techniques qui font qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes à un instant donné où on le choisit, quoi.
Exactement. Après, ça devient aussi un conditionnement, hein. Ouais. Et au contraire, plus on s'entraîne à le faire et plus ça devient naturel.
Ouais, c'est clair.
Et après, effectivement, le sport aide. Moi, clairement, le sport a révélé mon caractère. Donc, je pense que j'aurais pas été sportive de haut niveau. Peut-être que j'aurais pas été comme ça dans la vie de tous les jours. Donc, okay. Après, voilà, si les gens ils sont pas sportifs, au contraire, enfin, c'est voilà, comme je disais, c'est un conditionnement, c'est une habitude. Faut se faire violence des fois, même si c'est pas facile, parce que enfin, moi, on dirait pas comme ça, mais enfin, je suis quand même à la base quelqu'un de timide quand je connais pas. Et alors que, tu vois, à contrario, je fais quand même un sport où je passe devant des gens, quoi, tu vois, que je connais pas, tout le monde me regarde. Et c'est un peu paradoxal, mais ouais, du coup, avec le sport, l'habitude, tout ça fait que t'arrives après à te mettre dans ton rôle, dans ton... Tout simplement, quoi.
Ok. Ouais, exactement. Et la question que je voulais aussi te poser, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire... Tu vois, là, on a tout le conditionnement pour te mettre à fond dedans. Est-ce que t'as un conditionnement aussi pour en sortir un peu? Parce que tu vois, en discutant, on sent que tu vis, tu vois. Moi, je vois la passion, que tu vis karaté, tu transpires karaté, tu bois karaté, tu vois. Et, est-ce que tu vois, il y a des, tu te forces aussi des fois à des moments à un peu couper, parce que tu vois, ça prend quand même beaucoup de place. Mm-hmm. Je me pose la question parce que, je sais pas s'il y a des redondances, tu vois. Il y a certains champions qui deviennent complètement des machines, tu vois. Et je pense, tu vois, un Rafael Nadal, quand tu lis son bouquin, en fait, tu te rends compte que il a jamais, quoi. Il n'a jamais. Et puis il y a d'autres champions, quand tu te renseignes un peu, tu comprends qu'ils ont besoin de lâcher parce que ils n'arrivent pas à avoir cette, ils ont pas d'équilibre s'ils sont toujours à fond, toujours à fond. Du coup, toi, c'est quoi ton exutoire, peut-être un peu, ou est-ce que t'en as un?
Ben, c'est marrant déjà que tu parles de Nadal, parce que c'est une de mes références. Okay. C'est un de mes sportifs préférés. Et effectivement, enfin, moi, j'aurais tendance aussi à avoir du mal à sortir.
Ok.
Alors, il y a bien sûr, il y a des fois où j'en ai besoin, mais j'ai du mal.
Okay.
J'ai beaucoup de mal.
T'as lu sa biographie ou pas?
Non, et justement, ben, enfin, ça me rappelle le fait qu'il faudrait que je la lise, parce que quand je l'ai vue, je me dis, oula, il va falloir que je m'y intéresse, mais donc tu me fais un petit rappel là, c'est cool.
Ok, eh ben, vraiment Lila, je te spoile pas, c'est vraiment Lila, parce que tu vas adorer.
D'accord.
C'est un petit chef-d'œuvre et c'est un modèle, je pense, effectivement, de discipline, de concentration.
Mm-hmm.
Il a des exutoires quand même. Je dis, il a pas d'exutoires. En fait, il en a et il médite aussi beaucoup. tu vois, pour vider aussi toutes ces pensées, pouvoir passer. Mais c'est le conditionnement c'est presque inhumain, quoi. Je trouvais c'est fantastique.
Donc, écoute, je vais lire tout ça.
Et il y a plein de tips. Il donne plein de choses très concrètes. Tu vois, et il parle aussi de ces petits, de ce que certains voient comme des tocs, mais qu'en fait, ce sont du conditionnement, tu vois, des petites habitudes pour tout ça. Donc.
Mais ça me fait rire parce que maman, souvent, pareil, elle me prend l'exemple de Nadal et quand on dit ouais, on voit Nadal, tout le monde pense que c'est des tocs. Et effectivement, moi aussi, des fois, on pense que j'ai des tocs et en fait, c'est ce conditionnement qui fait que ça nous permet d'être dans notre bulle, d'être présent le jour J, quoi.
Ouais, exactement, et de créer ces petites routines et ces petits gestes qui
mais on en a besoin parce qu'avec la pression, on se rend pas compte, mais on a besoin d'avoir un schéma déjà, je dirais, tout tracé pour parce que c'est sécurisant et réconfortant malgré tout. Moi, au début, à une époque, j'avais pas forcément de routine d'échauffement. Alors, elle varie un petit peu, bien sûr, mais à l'époque, j'en avais pas forcément et j'avais pas de repères. Du coup, j'étais presque perdu et enfin moi quand je vois un Nadal avec sa bouteille et tout, enfin je vois que des fois je suis pareil, quoi.
mais c'est fascinant, et enfin c'est, moi je te comprends totalement, tu vois, je peux être un peu toqué sur les
toi aussi.
Ouais, j'ai mes petites habitudes, tu vois, là pour le podcast je sais que je sors toujours mon enregistreur, au moment où je le sors je suis obligé de te dire un mot sur le cœur, le poumon, ensuite je sors les micros, je parle des couleurs, tu vois, j'ai aussi mes petits trucs, donc ce livre te parlera beaucoup. Moi j'ai trouvé c'est trop pour moi, mais je pense que tu peux pas atteindre le niveau qu'a eu Nadal, et avec dans un sport aussi qui est aussi éreintant, qui est aussi quotidien, aussi exposé aussi, tu vois, médiatiquement, tu peux pas y arriver, je pense, sans avoir une culture et une personnalité aussi aussi tranchée, quoi.
C'est clair.
Voilà. Donc tu me diras ce que t'en penses. Et je crois qu'il existe en livre audio, si je le retrouve.
Mais j'aime un peu moins pour le coup, tu vois. Donc à la limite, à choisir, j'achèterai le livre et je lirai tout ça, ouais.
Ok, ça marche. Bon, écoute, je te le recommande et puis tu
ça
tu
marche,
me diras si tu le lis. Et ouais, c'est peut-être sur le un petit peu le comment tu fais un peu pour sortir un peu de ce conditionnement là et tout. Est-ce que comment tu libères un peu la pression, je sais pas, tu vas nager, tu vas voir tes amis, t'écoutes de la musique. Alors, j'ai cru comprendre que tu faisais de la méditation un peu toi aussi.
Un petit peu, ouais. Mais sinon c'est vrai que comme j'ai la chance d'habiter en Corse, j'aime bien me retrouver au bord de l'eau.
Ouais.
Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me ressource beaucoup et qui m'apaise. Mais c'est vrai qu'aussi, j'ai cette part où j'ai besoin de déconnecter, d'aller voir mes amis, de faire une soirée entre copines. Et plus ça va et plus pour moi, c'est devenu encore plus important en ce moment, quoi. Et souvent, enfin, mes amis le savent, c'est essentiellement le samedi soir où... alors, des fois, on me dit « Ah, vendredi et tout, tu peux. » Et pour moi, en fait, le week-end, je dirais presque, il démarre à partir du samedi après-midi parce que mon dernier entraînement se termine le samedi matin. Et en fait, pour moi, à ce moment-là, je sais que le samedi soir, je vais pouvoir décompresser et pas forcément me coucher tôt et ne pas regarder, je dirais, la montre et voilà, enfin profiter vraiment de l'instant présent avec mes amis, quoi.
Ouais, lâcher prise, quoi.
Ouais, 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 ouais.
Et être à 100% dans le moment, quoi.
C'est ça. Bon, après, j'avoue qu'avec le rythme de vie, du coup, des fois, j'ai presque un peu honte parce qu'on est avec les copines et à 23h je baille déjà, mais bon, après voilà, elles le savent, c'est ma vie comme ça, donc j'essaye des fois de tirer un peu sur la corde, mais on compte bien sûr, je suis éloignée des échéances, sinon c'est niette.
Ouais, je peux comprendre, ouais. Et peut-être tu as parlé un petit peu de ton rythme de vie, j'ai compris que c'était hyper rempli, parce que alors pas cette année, parce que je crois que ton entreprise t'a permis d'améliorer de te libérer de ton temps de travail.
Ouais, depuis 2019, je suis détachée à 100%, exactement.
Ok, donc tu travailles à domicile, qu'est-ce que ça veut dire être
détachée? Non, pas du tout, en fait, là, c'est vraiment, je peux me consacrer qu'à ma vie de sportif de haut niveau, et c'est vrai que, ils m'ont enlevé une épine du pied, parce qu'en 2019, ça devenait très très dur, le rythme de vie. En fait, du lundi au mercredi, j'étais sur Paris. Pour m'entraîner avec mes coachs équipe de France, je rentrais le jeudi vendredi pour travailler, mais sans oublier que j'avais entraînement le matin et le soir, plus samedi aussi entraînement. Et le lundi c'était rebelote, on repart sur Paris, donc tous ces entraînements, tous ces déplacements, plus cumulés des fois à des compétitions. Je suis arrivée et en mois de février, de septembre à février, j'ai fait ça et j'ai fait un burn-out, en fait, et là j'ai dit il faut faire quelque chose.
Ouais.
Et ils ont mis la Fédé, parce que je suis en contrat d'insertion professionnelle, et et la Fédé a été hyper réactive. Mi-février, on dirait que j'ai sonné l'alarme, et début mars, ils ont mis ça en place. Mon employeur a été très très compréhensif, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là encore Alex. donc franchement, ils ont été super cool, et du coup je suis détachée à 100% le temps de ma préparation.
Ok, bon bah c'est cool. Bravo à ton employeur, ouais. Parce que c'est chouette qu'il fasse ça, et il faut beaucoup. Enfin, ils t'ont donné beaucoup de confiance, tu vois. Moi, pour avoir deux entreprises, je sais que bon, alors je suis pro sportif, tu vois, et si j'avais dans mon équipe quelqu'un qui avait cette opportunité là de justement d'aller chercher un titre olympique et ou une médaille et de vivre ce rêve là que j'adorerais lui donner cette chance, mais tout le monde n'est pas comme ça, tu vois, et faut donner de la confiance. Donc
effectivement, non j'ai beaucoup de chance, et je les remercie encore aujourd'hui, parce que moi, pour le coup, j'ai vu la différence.
Okay.
Alors, je me suis presque considérée comme une sportive pro, quoi. Enfin, je me lève karaté, je mange karaté, je dors karaté, et n'avoir à me soucier que de ça, enfin, ouais. J'ai progressé de fou, quoi. Enfin, en peu de temps, vraiment. Et donc du coup, je les remercie énormément. Mais après, bien sûr, aussi, c'est aussi grâce à la Fédé et à ma région, parce que c'est vraiment, je dirais, c'est un triangle, tout ça. Donc ça se fait aussi parce que la Fédé aide aussi financièrement, et la région. Donc ils soutiennent, voilà, financièrement mon employeur.
Ok. Bon bah c'est super chouette. Alors je sais pas si tu voulais en parler, mais j'avais vu que tu avais fait une campagne de financement participatif.
Ouais.
Que tu avais proposé à ta communauté de t'aider. Je l'ai fait moi tout à l'heure, là il y a une heure.
Ah, mais j'ai pas regarder, vu, c'est gentil, je t'en remercie.
Tu pourras regarder sur ton PayPal que c'est bien arrivé. Je me demandais un peu, tu vois, qu'est-ce que... Déjà, j'encourage les auditeurs à le faire aussi, si vous avez bien aimé. Ça fait 55 minutes qu'on parle. Je voulais en parler plus tôt, en fait. Je me suis dit, comme ça, je suis sûr que tout le monde entendra, tu vois. Mais je me dis que les gens qui sont encore là sont ceux qui t'apprécient beaucoup. Donc, on peut leur demander, tu vois, de te filer un coup de main s'ils ont envie de t'offrir une bouteille d'eau corse pour Tokyo. Mais qu'est-ce que ça te permet, toi, de financer? Tu vois, on a un peu la vision de, effectivement, tu vois, c'est les fédés qui financent tout, et que les jeux, en fait, une fois que t'as eu ton billet, voilà, c'est terminé, t'as plus rien à faire, entre guillemets, tu
ouais.
vois. Pour toi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de travail aussi, et beaucoup d'orga, et que ça coûte super cher, en fait, finalement. Et du coup, ma question, c'est un peu, ouais, qu'est-ce que ça finance, qu'est-ce que tu vas chercher comme financement, et qu'est-ce que aujourd'hui, t'as peut-être un peu plus de difficultés à financer par toi-même, tu vois.
Ben c'est vrai qu'aujourd'hui, donc bien sûr, j'ai quand même des partenaires, j'ai quand même des aides, il y a la Fédé aussi qui est là, mais il y a des regroupements qui sont hors stage équipe de France, et ceux-là étaient quand même à mes frais, bien que j'ai Air Corsica quand même pour le bord à bord, mais j'ai quand même des taxes aussi à payer pour l'avion, j'ai la restauration, les transports, l'hébergement, mais depuis peu, ben en fait, justement, grâce à cette cagnotte en ligne et un article de Corse Matin qui a été fait, j'ai depuis peu donc un partenaire aussi qui me prend mes nuits d'hôtel. Okay. donc c'est vrai qu'en fait j'avais lancé cette cagnotte pour que les gens m'aident aussi à financer je dirais les faux frais aussi, quoi. Donc ouais. Et puis aussi il y a du matériel encore aujourd'hui à acheter qui reste nécessaire pour ma préparation, que ça soit des kimonos aussi qui viennent du Japon, parce que voilà, ils sont sur mesure, donc enfin voilà, c'est plein de frais comme ça qui font que même si j'ai des aides, malheureusement ça ne suffit pas.
Ouais.
Je reste un sport amateur, et quand à peu près, quand on voit le budget d'une saison sportive, à peu près en baissant tout, on est dans les 30 000 euros quand même.
Ouais.
Donc voilà, pour
entre
une saison
les billets d'avion, les nuits d'hôtel.
C'est vrai qu'en plus, comme je viens de Corse, alors c'est une grande fierté pour moi, et je suis d'autant plus fière justement de pouvoir être au haut niveau tout en restant sur mon île, mais ça nécessite beaucoup d'aller-retour. Effectivement, Air Corsica est là pour me soutenir, mais
c'est cool.
Non, franchement, et puis depuis plusieurs années, donc voilà, donc c'est vrai que j'ai que les taxes à payer, mais je dirais quand on n'a pas assez de subventions, au bout d'un moment, forcément, les taxes plus l'hébergement plus la restauration, donc ça plus ça plus ça, les comme dit ma mère, les petits font les grands, et donc du coup, enfin voilà, pourquoi j'ai voulu demander aussi. Alors j'ai longtemps hésité, par contre, faut savoir, ça fait plus d'un an qu'elle est créer la cagnotte et je n'osais pas.
Ouais,
parce que j'avais l'impression en fait de faire l'aumône et j'avais pas envie de donner cette image. Puis finalement, bon ben, il y a des gens qui m'ont dit Alex, on m'a clairement dit t'es bête, pourquoi tu le fais pas, t'es la numéro une française, tu vas représenter la France aux JO. Et on m'a dit bien sûr que certains vont le critiquer, mais d'autres au contraire voudront te soutenir et participer en fait à ton aventure. Et je me suis dit ben feu, je me lance et puis effectivement les gens répondent présents et donc et j'en profite pour les remercier quoi.
Ouais, bah c'est cool. Donc non mais c'est vrai que peut-être dans le sport et même peut-être aussi en France, tu vois, l'argent c'est un petit peu un tabou, mais tu vois, c'est important de aussi, tu vois, d'être transparent sur les besoins des sportifs, qu'est-ce que concrètement ils ont besoin de financer, et quand tu fais un peu le compte et tu connais un peu, parce que je pense que tu fais de la compta, ça fait pas mal de
ouais,
compta
du
et
coup,
tout
ouais.
Ben voilà, exactement, comme tu le dis, quand tu fais la somme de toutes les petites dépenses mis bout à bout, en fait ça c'est costaud. Donc je sais pas si t'es plutôt thé ou café, mais en tout cas je crois qu'on peut t'aider juste en t'offrant un thé ou un café. Donc je mettrai le lien dans la description de l'épisode là si vous voulez aller voir, puis je partagerai un peu ça sur les réseaux sociaux et parce que ça me ferait plaisir que ma communauté te file un petit coup de main. Je sais qu'elle avait filé un gros coup de main, je sais plus quel athlète, mais ça avait bien marché. Et puis on avait fait d'autres campagnes aussi pour les étoiles du sport et les Restos du Cœur, et à chaque fois c'était un bon relais. Donc
bah, c'est très gentil en tout cas.
Bah voilà, non mais c'est cool aussi d'en parler, parce que faut pas que ça soit un tabou, quoi. C'est dommage. On a envie, tu vois, le public et les Français ont envie d'avoir des champions. Le système est comme il est, et puis il est difficile, ses avantages, ses inconvénients, mais ce qui est sûr, c'est que créer des champions, ça a aussi un prix, et il faut être juste capable de le mesurer, de le quantifier, de voir aussi dans les autres pays, et si on s'entraide pas, et si on met pas les moyens pour avoir des champions, on les aura pas, quoi, tu vois. Et
c'est vrai,
et faut, tu vois, et c'est bête, tu vois, mais créer un Nadal, ça a un prix, tu vois. Ça, c'est,
ah oui.
Tu vois, à Majorque, il y a un énorme club, c'est un énorme complexe sportif, qu'ils ont grandi avec des kinés, des coachs, des préparateurs physiques, de la balnéothérapie, tu vois. Et ils ont construit tout ça, en fait. Ils ont construit tout le complexe Nadal, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte, ah ouais, en fait, pour créer une star comme ça, il y a besoin de budget.
Les moyens, ouais, c'est clair.
Voilà, donc j'imagine, tu vois, à quel point juste pour une campagne de Jeux Olympiques, c'est hyper coûteux aussi.
Ouais, et puis en plus, on va pas se leurrer, comme je fais du karaté, c'est pas forcément très médiatisé, c'est difficile de trouver aussi de réels sponsors. Même pour te dire, un sponsor textile aujourd'hui, on en a pas, quoi, tu vois. Enfin, je connais même dans le karaté, je connais pas beaucoup, ou je crois qu'il y en a pas de karatéka qui ont un sponsor qui lui donne des fringues, quoi, tu vois. Ouais. Donc rien que ça.
Alors que tu fais beaucoup de préparation physique.
Ouais, clairement. Enfin, moi, il y a une marque que j'adore et bon, elle m'a pas fermé la porte, mais mon profil est trop jeune, tu vois. Donc, ça fait un petit peu bisqué, comme je dirais. Mais après, bon, moi, j'adore Instagram, donc je tends à le développer et j'espère le faire développer pour un jour décrocher cette marque parce que je l'adore. Mais ouais, c'est difficile parce que tu te dis ton profil il est trop jeune, tu fais un sport qui est amateur, qui est pas médiatisé, donc du coup en fait ben t'as l'impression que les gens ils s'intéressent pas à toi, quoi. C'est compliqué.
Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Non, et puis en plus on vit dans un monde qui est de plus en plus drivé beaucoup plus par les réseaux sociaux et par ta communauté réellement que par tes performances pures et dures, donc
c'est clair.
Voilà. Donc vous pouvez aussi aller suivre Alexandra sur Ouxella, comme vous préférez, sur ses réseaux. C'est aussi filer un petit coup de main aux athlètes, parce que justement ça montre que il y a des gens qui soutiennent les athlètes directement,
c'est
clair. Et ça parle aussi aux marques. on avait, tu vois, on a, ça fait, c'est quasiment une heure, je pourrais rester encore longtemps, mais,
ouais, mais on voit pas le temps passer.
Mais, je voulais quid un petit peu de la fin. Tu m'as parlé de sieste, on a parlé un petit peu de, d'alimentation. Est-ce que t'as des petits tips, des petits trucs, des petites routines un peu par rapport à ça, la sieste, voilà.
Alors, la sieste, en tant que Corse, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de sacré. Donc, oui, effectivement, mon père m'a initié à ça depuis plus jeune. Et puis, bon, et dès que je suis rentrée en équipe de France, j'ai compris l'importance de la sieste, quoi. Donc, j'essaie de pas trop en abuser. Bon, il y a des fois, ça dure plus d'une heure et demie. Bon, là, je suis dans le pâté quand je me réveille. Mais, non, sinon, j'essaie régulièrement d'avoir quand même ma sieste pour justement tenir mes deux entraînements et ma charge, voilà, d'entraînement quotidien. Donc il y a ça. Après, au niveau de la nourriture, comme j'ai pas de catégorie de poids, je suis pas limitée par mon poids. Après, effectivement, je suis quelqu'un qui se pèse tous les jours. Okay. Je pense que c'est des restes de, parce que j'étais combattante aussi à l'époque, avant de me spécialiser en kata. Je pense que j'ai des restes, donc du coup, tous les matins, j'ai ce petit rituel de peser et je fais quand même attention à ce que je mange. Je suis pas en train de calculer tout ce que je mange parce que je l'ai déjà fait à une époque et ça, c'est invivable.
Okay.
Mais voilà, après je reste en plus quelqu'un de très gourmande, donc j'ai envie de me faire un plaisir, je vais le faire, quoi.
Ok, d'accord.
Bien sûr, loin des échéances. je vais pas me manger un McDo à deux jours des championnats d'Europe, bien sûr. Mais non, bah en plus de toute manière en Corse il y en a pas, donc comme ça au moins ça limite. Ouais. Mais donc du coup c'est ces petits rituels où on fait aussi attention.
Ouais, c'est clair. Non, et puis sur l'alimentation, moi aussi j'ai un peu lâché prise avec ça, parce qu'en fait c'est hyper important l'alimentation, bien sûr, mais moi j'ai pas vu de différence à être maniaque, tu vois, et à mettre toute ça c'est plus destructeur, je trouve, finalement, que ça t'apporte de bien-être, quoi. Donc voilà. Et puis les profils un peu comme nous qui peuvent avoir vite tendance à devenir un petit peu très précis et très rigoureux, ça peut être un peu destructeur, quoi.
Ah, je l'ai fait sur une période. Après, j'avoue, j'ai pété un câble.
Ouais.
À calculer le moindre gramme. J'ai dit basta. J'ai dit c'est plus possible. Maintenant, je fais au moins attention à ma portion de pain le matin, ce que je mange, parce que j'adore ça le matin, le pain beurre. Mais enfin voilà, si j'ai 5 grammes ou 10 grammes en plus. Voilà, je vais pas me prendre la tête, quoi, donc.
Ok. Et sur la récup, t'as des petits trips, je sais pas, est-ce que tu t'étires beaucoup, cryo, méditation, bain, j'en sais rien, le froid.
Alors de temps en temps, donc je fais de la cryo, justement. J'ai mon kiné qui a une cryo à immersion totale. Okay. Et alors j'en fais pas tout le temps, mais effectivement quand je sens que j'ai un gros coup de fatigue, je le fais.
Okay.
Alors pourquoi pas régulièrement, c'est tout simplement parce que j'aime pas le froid, je reconnais, et du coup j'ai beaucoup de mal. Okay. Après sinon pour la récupération, j'essaye voilà de me coucher tôt. Alors généralement en vieillissant on dit qu'on dort de moins en moins, mais moi c'est l'inverse. Et plus ça va et plus, enfin, je me rends compte que j'ai au moins, déjà c'est minimum 8 heures de sommeil, si ce n'est pas 8 heures et demie, quoi.
Okay.
Et du coup je calcule toujours à peu près ce temps de sommeil qui est important. Puis en plus, bon, je suis une lève-tô et pourtant j'ai beau mettre un réveil par exemple à 7h ou 8h, ben à 6h30, les yeux ils sont ouverts, quoi. Donc impossible de me rendormir, donc du coup forcément je compense en me couchant plus tôt, quoi.
OK, ça marche. Et ça ressemble à quoi une très bonne journée pour toi, la journée idéale de Xéla ou d'Alexandra, ça ressemble à quoi?
Alors la très bonne journée, ça commence par la pesée déjà, la pesée conditionne. Non, bon, généralement après voilà, le poids varie pas beaucoup, mais la très bonne journée, je dirais, c'est quand je fais et du physique et de la technique. Quand j'ai ma soit par exemple le karaté le matin et la préparation physique l'après-midi.
Okay.
Quand bien sûr les sensations sont là en karaté, que je me sens hyper bien, que du coup la moindre correction en 2 secondes elle est corrigée. Et pour la partie physique, je dirais quand je fais la musculation, parce que je me régale, c'est une autre passion. Et quand donc du coup, si mon coach il peut entendre ça, et que du coup quand il y a la partie aussi haltéro, quand il met beaucoup d'haltérophilie dans ma séance, enfin je me régale, quoi. Et
pourquoi tu fais de l'haltéro?
Ben en fait, c'est, ça fait partie de mon programme. C'est quelque chose. Et effectivement, je vois l'amélioration de mes capacités. Du coup, quand je retranspose tout ça en kata, et effectivement, l'haltérophilie m'a aidé en termes de dynamisme, vraiment sur pas mal de mes mouvements, quoi. Donc, Et du coup, j'ai découvert ça grâce à ma préparation. Et du coup, je me régale. Et c'est vrai que c'est devenu une autre passion, presque, je pourrais dire. Donc, rigolant, parce que du coup, moi, je suis contente quand on dit, je sais pas si quand tu dis, ouais, j'ai fait péter un PR. C'est les PR, c'est les poids records. Donc, du coup, en fait, je suis toute contente. Et quand je le dis à mon coach équipe de France, il me dit, mais Alex, tu vas pas faire les JO d'haltérophilie, calme-toi. Mais en fait, du coup, enfin, tu vois, même là, en fait, alors que c'est pas ma discipline, il faut que je dépasse un peu mes PR, comme on dit. Donc, du coup, je me régale.
Ok. Et c'est quoi tes mouvements préférés? Parce que moi, je fais beaucoup de crossfit. Donc,
d'accord,
Tu vois, l'haltéro, c'est mes sujets un petit peu du moment. Alors, depuis la fermeture des box, je sais beaucoup plus de poids de poids du corps, parce que j'ai pas le matos à la maison. Mais c'est quoi du coup tes mouvements favoris? Je sais pas, l'épaulé.
Ouais, j'aime beaucoup le clean. Alors soulever terre, non, c'est bizarrement, je déteste ce mouvement. J'arrive à la limite du sumo deadlift, ça passe. Bon, par contre, tout ce qui est squat, j'adore. Et j'aime bien le snatch. Et toi?
Moi, mon mouvement préféré et de très loin, effectivement, c'est le clean, l'épaulé. J'adore ça. Après, j'ai du mal à passer je crois que mon personal record, il doit être à 72 kilos. Et ça fait très très longtemps que j'ai pas pu repratiquer. Après, moi, j'adore le muscle up aussi. C'est un autre mouvement.
J'allais t'en parler. J'aimerais trop savoir le faire.
C'est tellement simple.
C'est vrai.
C'est un mouvement de gym, mais je suis sûr que tu t'entraînes en 2 semaines, tu le passes. C'est un truc. C'est juste un mouvement de balancier. C'est très simple. Et c'est en fait, il faut que tu arrives à capter ce mouvement de le balancier de gym, où en fait tu vas avoir tes mains et tes pieds qui sont toujours alignés, et en fait c'est ton bassin qui vient derrière et ensuite qui vient devant, tu vois.
Ouais.
Et une fois que tu arrives à avoir ce mouvement des épaules qui arrive à te faire balancer, et ça passe tout seul.
Mais j'avais fait du crossfit, et effectivement un jour dans une séance lors d'un skill, on commençait à faire l'apprentissage, mais comme après c'est pas mon sport premier et que j'en faisais pas régulièrement, effectivement je risquais pas de progresser là-dessus, mais c'est un objectif, tu vois, là encore.
Ça roule. Et c'est quelque chose que comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Plutôt karaté, plutôt haltéro,
plutôt fitness,
plutôt corps,
et pourquoi non, plutôt fitness. Il y a une discipline que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, le body. Alors je dis pas que je me lancerai là-dedans, mais tu vois, là encore, en fait, ma mère arrête pas de me dire, ouais, après le karaté c'est bon, tu vas arrêter. J'ai dit non, je continue. Et en fait, c'est vrai que j'ai du mal à concevoir un sport sans compétition. Donc bon, on verra, peut-être qu'à l'issue de ma carrière de karatéka, là pour le coup, j'aurai vraiment envie de d'arrêter la compétition. Mais en tout cas, enfin, moi aujourd'hui, c'est ce qui m'anime, et en tout cas le fitness. Après, faire du body, bon, il y a beaucoup de restrictions. Quand je les vois, ils sont en sèche là. Du coup, il y a bientôt, je crois que c'est demain, commence une compétition en Espagne. Je suis des filles sur Instagram et tout. Quand je vois ce qu'elles mangent, je me dis, non, Alex, j'ai pas envie de m'infliger ça, quoi. Juste pour ça. Ouais. Mais peut-être dans le fitness, je pense.
Ok. Et sur ces filles qui font du body, tu penses que c'est clean en termes de produits et tout ça? Parce que, tu vois, sur les mecs... Moi, j'ai des potes qui, effectivement, qui sont passés par ces univers-là, qui ont essayé un peu, et tu vois, même à des niveaux très très amateurs.
Ouais.
Moi, j'ai toujours l'hésitation, quoi. Donc je suis un peu.
Ouais, pour pas tomber. Ouais, je comprends. Mais moi, de ce que je vois sur les réseaux, forcément, ils disent que non. Après, il y a pas si longtemps, j'ai fait la rencontre d'un coach sportif qui est sur Tours, et lui aussi. Donc en fait, il me parlait du milieu, et puis lui, il a aucun complexe à dire, justement, en fait, qu'il se charge, quoi, clairement. Et il me disait, mais Alex, dans ce milieu-là, ils sont tous chargés, quoi. Donc ouais, du coup, c'est vrai que finalement, je me dis, bon, ce côté-là me plaît pas trop, donc voilà, je resterai à du fitness, juste pour par plaisir aussi de sculpter mon corps, moi, de voir aussi les progrès et d'avoir une shape convenable.
Ok, ça marche. Mais du coup, moi j'ai une autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a un autre sport que t'aurais aimé pratiquer au haut niveau? Mais du coup, j'ai un peu ma réponse, mais peut-être dans les autres sports olympiques d'ailleurs.
Alors plus jeune vraiment, j'aurais dit aussi la gym.
Ok.
Je trouve ça magnifique et ma mère m'avait fait de la gym plus jeune. Okay. J'avais fait de la baby gym et c'est vrai que je me dis, si c'était à refaire, je pense que je ferais de la gym.
Ok. Moi, je comprends pourquoi tu te plairais bien dans le CrossFit.
Voilà. Du coup, ben ouais, forcément, comme il y a des mouvements de gym aussi.
Bah ouais, c'est clair. Ouais. Il y en a pas mal. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur dans la vie? Est-ce que t'as des craintes ou plus rien ne te fait peur?
La mort.
C'est vrai?
C'est peut-être un peu glauque d'en parler là, mais ouais, ça me fait peur. Je sais pas si c'est la peur de, je me dis, j'ai peur de pas avoir assez vécu ou justement, enfin aussi la perte des êtres chers. Moi, c'est quelque chose, ouais, j'ai, bon, comme pour tout le monde, c'est dur, mais moi, c'est quelque chose aussi qui me fait peur.
Mais tu sais que, enfin, y a pas de mal à parler de ça, tu vois. C'est une émotion et tout, c'est normal, la peur. Mais le fait d'avoir peur de la mort, j'avais lu dans un bouquin, moi je fais beaucoup de développement personnel et psychologie, d'accord, j'aime bien, tu vois. Et j'avais lu dans un bouquin que la peur de la mort, c'est le fait qu'on a peur de manquer à ses proches.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on sait qu'on apporte du bonheur à ses proches, on sait que nos proches attendent quelque chose de nous, et avoir cette peur de la mort, c'est avoir justement la peur de pas remplir leurs attentes ou ce qu'ils ont, tu vois, ce que on a peur de leur manquer, en fait.
Ouais, c'est une bonne approche, ouais, effectivement, ouais.
Donc ce serait peut-être ça, tu vois. Et comme t'es très famille, tu vois, ça peut être ça.
Ouais, c'est vrai.
Est-ce que t'as un mantra ou une phrase, une citation que tu te répètes hyper souvent pour te redonner la pêche et pour te rappeler qui tu es et où est-ce que t'as envie d'aller?
Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est pour être le meilleur, affronte le meilleur.
Ok.
Ouais. Et j'adore cette phrase et c'est vrai que des fois quand arrive un tirage au sort et qu'on voit qu'on a des têtes de série et on se dit oh purée ça va être dur mais en fait il faut passer par là quoi donc ouais. pour devenir numéro un il faut détrôner quelqu'un forcément donc j'adore okay. cette phrase et sinon par contre j'aime beaucoup enfin en ce moment quand les entraînements sont assez durs en fait si tu veux je m'entraîne dans mon grenier que j'ai aménagé en dojo et j'ai une petite affiche où il y a dessus en fait il y a les anneaux olympiques. Et quand c'est dur, en ce moment, c'est devenu presque pas un rituel, mais c'est devenu une habitude en fait de zioter tout de suite les anneaux.
Ouais.
Parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif majeur. Et du coup, en fait, je me répète cette phrase, je me dis, allez Alex, lâche pas. Tiens bon, tu vas le faire. Enfin, c'est des petites phrases en fait que où je m'encourage parce que des fois, enfin voilà, tu te donnes tellement. Enfin, bah tu connais ça aussi. Tu fais du sport, donc il y a des fois où tu en peux plus quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que de regarder ces anneaux, ça me fait tenir quoi. Bon, je suis pas quelqu'un qui lâche, mais ça te fait tenir encore plus.
Ouais, c'est clair. Bon, écoute, je touche du bois. Je suis persuadé que tout va bien se passer et que. Enfin voilà, je suis persuadé que tu vas aller au bout de ton rêve et que tu vas faire une très très belle perf et que tout le monde sera fier de toi. En tout cas, moi j'en suis persuadé.
Mais écoute, je croise les doigts, je touche du bois et.
Mais il faut le dire. Plus tu le dis, plus il y a de chances que ça se passe. Tu vois,
exactement. Conditionnement. On en a parlé tout à l'heure.
Exactement. Si tu pouvais te donner un petit conseil à la petite Alexandra. D'une quinzaine d'années je crois que t'as eu ta première sélection en équipe de France à cet âge-là ou t'as été repéré à peu près à cet âge-là.
Ouais, exactement.
Si tu pouvais te donner un conseil, qu'est-ce que la petite Alexandra de l'époque elle aurait eu besoin de savoir? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'on lui dise?
Moi je me dirais ma grande, ça va être dur. On va te mettre des bâtons dans les roues, mais accroche-toi parce que tu deviendras un jour numéro une française et ouais, en fait, le jeu en vaut la chandelle et accroche-toi pour vivre ton rêve. Parce que c'est vrai qu'on s'imagine pas que le chemin est dur. Mmh. On s'imagine pas aussi qu'on peut avoir des bâtons dans les roues et que des fois, malheureusement, dans le sport, les gens sont pas toujours fair-play. Des fois aussi, on a des non-sélections qui sont pas toujours aussi, des fois, tu comprends pas pourquoi t'es pas sélectionné. Et c'est vrai qu'on dira que j'ai eu un début de carrière, quand j'ai passé mes 18 ans, quand je suis arrivée en senior, c'est vrai que j'ai eu un début de carrière, je dirais, assez compliqué. Et je pense que je dirais ça à la moi de plus jeune, en fait, à moi, à 15 ans, je me dirais de m'accrocher et de pas baisser les bras parce que voilà le ouais. ça vaut le détour.
OK, mais c'est dans l'adversité que les grandes personnalités se révèlent donc
Ben c'est exactement ça et souvent quand des fois on me dit c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Alors bien sûr en tant que sportif de haut niveau on déteste les échecs mais malheureusement c'est vrai.
Ouais.
Et c'est souvent quand j'étais au plus bas que je suis remontée encore plus haut.
OK. Mmh. Ouais, mais c'est vrai qu'on l'oublie parce qu'il y a un côté très bienveillant autour du sport et même dans la communication où tout est très policé mais on oublie que c'est quand même un univers de gens qui ont de l'ego, qui ont envie de gagner, que c'est de la compète et que il y a quand même pas mal de coups bas, d'affrontements, ouais. Qui est parfois c'est un peu enfin on le voit pas toujours mais tu vois il y a un côté aussi un sans pitié quoi aussi du sport de haut niveau qui est dur à affronter quoi.
Ouais, totalement et c'est vrai que moi je suis pas du tout comme ça donc quand je l'ai vécu tu te demandes ce qui se passe, tu comprends pas quoi. Donc moi je me dis j'ai toujours été fair play, j'ai toujours serré la main à mes adversaires quand je perdais mais de voir quand tu détrônes je dirais la numéro une française et que en retour elle te serre pas la main enfin voilà quoi donc du coup c'est des petits trucs tu te dis mais enfin c'est au final je me dis c'est ridicule ça vient de si bas donc maintenant ça passe mais c'est vrai que sur le moment enfin voilà c'est tu comprends pas quoi
parce que j'ai pas
été éduquée comme ça en plus donc d'autant plus
bah quand ça t'arrive en plus et que t'es jeune tu peux aussi le prendre un peu personnellement tu vois et c'est difficile de passer outre et se dire bon en fait ça aurait été moi ou une autre qui battait cette personne elle aurait fait exactement la même chose et moi je m'en fous je suis moi-même et genre
c'est
pas de problème avec cette personne là et puis je vais tout gagner et puis vous pourrez voir
c'est clair
mais quand t'es jeune c'est pas facile de
ben ouais t'as pas le même recul quoi donc okay.
Ouais c'est clair. La toute dernière question que je pose parce que l'heure file désolé je te garde trop longtemps.
Non, mais t'inquiète.
Et comme on passe un bon moment, j'en profite et je suis toujours trop gourmand moi aussi. Mais la dernière question pardon que je pose c'est de savoir quelle est la ou les prochaines athlètes que tu me renseignes que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format un petit peu comme celui-là. Est-ce que il y a des noms que t'aimerais bien écouter sur une conversation un peu longue comme ça un peu lente mais aussi un peu fun et décontractée?
Pas forcément dans le karaté hein,
dans tous les sports c'est comme tu veux, ça peut être des gens que tu connais, que tu connais pas.
Moi j'aime beaucoup en gym
Samir Aitsaïd.
Oui, pardon, excuse-moi, okay. J'ai toujours un peu de mal à le dire. Et j'aime beaucoup okay. Samir et dans le judo Priscilla Nieto parce que bon ben du coup il okay. y a aussi un petit peu ses parents habitent en Corse donc
OK. Bah écoute, je connais pas Priscilla mais Samir, j'ai eu l'occasion de l'interviewer.
Il y a
pas très longtemps. Bah je t'enverrai l'épisode.
Ah ben avec plaisir comme ça j'écouterai.
On s'est
rencontrés. Ouais, c'est vrai que il a une belle histoire et je l'avais rencontré aux Jeux européens il y a 2019 je crois.
Okay.
Donc puis en fait, c'est vrai que du coup moi lui il en a déjà fait des Jeux olympiques et j'étais un peu toute timide le fait de le voir parce que je dis oh purée maman c'est Samir, j'ai vu Samir, t'en rends pas compte. Et puis après de voir que sur les réseaux on se parlait et tout, enfin c'est trop marrant quoi. Du coup, c'est vrai que je me dis c'est exceptionnel de vivre aussi tout ça en tant que sportif et puis c'est vrai que de voir enfin c'est ça reste un grand champion hein.
Ouais, c'est clair. Et puis l'histoire est folle et tu verras j'ai appris enfin il y a plein de scoops sur lui dans l'épisode je te spoile pas mais il a raconté des choses très profondes de son enfance sur ses parents, d'où il vient, qui il était, le parcours qu'il a dû par lequel il est arrivé et tu verras je m'attendais pas du tout à ça. Je crois que c'est une des premières fois qu'il en parle publiquement donc
d'accord. Mais j'ai hâte de découvrir alors.
OK, je te l'enverrai. Merci infiniment Alexandra, j'ai passé un super bon moment, j'espère que toi aussi.
Mais merci à toi et effectivement, j'ai passé un très très bon moment.
Bon bah cool. Et voilà, tous les auditeurs, si vous avez envie d'aller suivre Alexandra, n'hésitez pas. Si vous avez envie de lui filer un petit coup de pouce, la première chose à faire effectivement, c'est d'aller la suivre sur les réseaux, de lui envoyer un petit message pour lui donner de la force. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de lui offrir un café, une bouteille d'eau ou même un peu plus, un kimono carrément, ou une paire de chaussettes, j'en sais rien. Bah vous pouvez ouais effectivement lui participer à sa petite campagne de financement. Donc allez-y, faites-le. Je pense que tu le mettras sur. Tu l'as mis sur ta bio.
Oui,
Insta,
c'est ça,
elle
est sur ma bio. Et puis, ouais, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux parce que je mets ma préparation. Donc, si vous voulez découvrir aussi mon univers, okay. Bah, au contraire.
Bon, bah, cool. On fait comme ça. Merci, Alex.
Et, merci à toi.
Et à très bientôt. Je me permets, Alex, c'est la fin de l'heure.
Pas de souci, avec plaisir.
À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !